Sous les pavés, la Ferrarock.
Interview d'artistes.
Paroles de musiciens. Histoire de groupe.
Et nous sommes dans Hirondelle et Petit Four, tandis que la Ferrarock apporte du champagne à nos invités. Nos invités, eh bien, c'est Vincent Segal et Balaké Sissoko. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous sortez à peine de votre concert, visiblement ça s'est un petit peu éternisé. Comment ça s'est passé à chaud pour cette scène, pour le Printemps de Bourges?
En fait, il faisait assez froid dans, dans l'église, mais c'était le seul problème qu'on a eu, qui n'était pas vraiment un problème, mais c'est vrai que c'est une église pas chauffée, donc on n'est pas encore en plein été. On n'est pas à Bamako non plus, donc il faisait un... Mais par contre, les gens étaient super, super écoute. Pour moi, j'en ai fait pas mal à Bourges, des concerts dans plein de salles, et c'était ma meilleure salle, en fait. Au niveau son, écoute, on pouvait faire toutes les finesses qu'on voulait, il y avait une super résonance, et les gens ont trippé, je pense.
Très bien, c'est principal. Balaké, du même avis?
Oui, ben c'est le même système... Et le public était cool, et puis l'endroit aussi, là, c'est vraiment assez été. Ouais.
Alors, votre histoire, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre. Chacun avait déjà fait des duos par le passé largement. Balaké, c'était avec Toumani Diabaté, Vincent avec pour Boumchilo, avec Cyril Atef, avec plein d'autres, avec également Mathieu Chédid. Et finalement, je crois que c'est vous, Balaké Sissoko, qui, lors d'un concert de Boumchilo, avait eu l'idée de cette rencontre.
Oui, bah en fait, là, c'est ça, parce que là, j'ai beaucoup travaillé autrement. Donc, là, avec violoncelle, donc c'était une rêve et que je voulais faire. Donc, là, j'ai suivi des trucs. Donc, là, j'ai contacté Vincent et puis de lui demander. Donc, pas juste une rencontre, mais travailler pour préparer le futur aussi. Donc, là, c'était le sujet. Ouais.
Finalement, plus qu'un duo, j'ai presque envie de dire que c'est une dualité entre deux instruments, le violoncelle, la cora, avec la cora qui est très mélodieuse, le violoncelle qui est plus incisif. Et finalement, plus qu'une rencontre, oui, c'est presque une confrontation entre ces deux instruments qui ensuite devient peut-être un peu plus fusionnel.
Alors là, c'est difficile à dire pour nous parce qu'en fait, nous, quand on sort les instruments, on joue, on a du mal à commenter ce qu'on fait, mais... Ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de points communs dans le sens que c'est deux instruments où, en fait, quand on joue avec beaucoup d'autres musiciens, on a du mal à avoir une qualité d'écoute dans la musique rock ou dans la musique moderne ou quand il y a beaucoup de percussions, des choses. Là, on peut vraiment jouer comme on joue à la maison. C'est pour ça qu'on l'a appelé chamber music, en fait. C'est l'idée vraiment de... Il aime bien, il m'a dit, quand tu vas voir, quand on est chez moi à Bamako, on se met dans la cour à minuit, on joue, c'est calme et on se laisse porter par le son. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, quand on joue tous les deux, on se laisse porter. Mais l'avantage, c'est qu'on n'est que deux, on n'a pas besoin d'amplification. Et on est vraiment libre par rapport à ça. Quand on joue avec, par exemple, quand je joue avec Cyril, avec Boumchilo, j'ai mon violoncelle électrique, c'est un autre instrument, c'est un autre son. J'adore délirer avec Cyril et tout, mais je ne peux pas jouer et retrouver les mêmes sensations. Avec Balaké, c'est vraiment une sensation que je retrouve depuis l'enfance.
En fait. Ça fonctionne beaucoup sur l'écoute, de surcroît.
Et qu'est-ce que vous êtes apporté musicalement l'un l'autre dans les harmonies, dans les accords, dans la technique peut-être de deux instruments qui se rapprochent quand même?
Non. Bon, en fait, là, dès le début, on a essayé de discuter techniquement d'abord. Oui, donc on a discuté techniquement d'abord, donc voir la possibilité. Parce que moi, là, je suis pas... j'ai fait plein de trucs, hein, mais... Et pour voir la violoncelle, là, je connais, mais je connais pas ces techniques tout. Donc, bon, et avec Vincent, donc, on a déjà discuté et puis travaillé longtemps et amicalement et avant de sortir d'abord le sujet même. Donc là, c'était un peu ça.
C'est vrai qu'on aime bien les compétitions un peu comme tu vois les freestyle en hip-hop ou des choses comme ça. C'est quand on se retrouve le soir, on n'a pas besoin de parler, mais on rigole et je lui montre.
Vous faites des battles un peu comme un jazz à la limite.
Il fait un phrasé et toi, je peux faire ça. Et puis il y a vraiment beaucoup de proximité historique déjà. C'est-à-dire que ces instruments qui ont la même origine, vraiment tu le vois tout de suite quand on joue. Et après, il y a plein de subtilités de jeu. Le jeu des harpes, c'est un jeu où on a une dextérité d'ongles et de doigts et au violoncelle, en fait, c'est un instrument qui a varié suivant les époques, où on peut jouer à l'archet, au doigt, de manière différente, quoi.
Et votre rencontre est assez étonnante, parce qu'on aurait pu, avant la sortie du disque, s'attendre à un duo assez explosif. Vous venez tous les deux d'univers assez explosif, que ce soit dans le registre rock, parfois dans les registres plus africains, presque afro-funk, parfois. Et finalement, Chamber Music porte bien son nom. Et est-ce que vous-même, vous avez voulu aller à contre-courant de l'attente de vos publics, ou c'était simplement naturel de jouer avec une sorte de retenue, d'un bouillonnement intérieur?
Je pense que c'est vraiment naturel, surtout quand on connaît Balaké. Je sais que chez lui, il aime beaucoup écouter, par exemple, la musique indienne du Nord, traditionnelle, avec les alapes qui sont des lents préludes. Il aime beaucoup l'espace, alors qu'il peut très bien jongler, comme on dit, comme un malade, mais c'est vrai, quand il est chez lui, il aime bien les morceaux très très calmes. Et c'est un peu ce que je cherchais aussi. On a le même âge tous les deux, à plus de 40 ans, c'est, t'aimes bien avoir ce truc, t'as pas envie de prouver des choses, et on se faisait plaisir.
Un peu comme Miles Davis, qui joue sur les silences, quoi.
Ça, c'est vrai.
Là c'est beaucoup sur les silences.
C'est Balaké, ouais, ça, voilà. Il adore l'espace.
Vous êtes sur No Format, l'histoire de ce label prouve que justement No Format a l'habitude des rencontres entre duos qui n'ont pas forcément le même parcours au départ. Et finalement, à l'écoute de Chamber Music, on a l'impression qu'on ne peut pas en rester là vraiment, que c'est le début d'une longue lignée d'albums qui verront bientôt le jour. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous avez quelque chose à nous annoncer peut-être?
Il y aura Kitchen, il y aura...
Ah oui, après la musique de chambre, on a plein d'idées déjà... Je pense que j'ai vraiment envie d'entendre un album de Balaké, parce que Cora solo, il n'a pas encore fait. Ça, c'est vrai que ça serait génial. Et après, on a plein d'idées par rapport aussi... parce que Laurent Bizot, de No Format, il est venu nous voir quand on enregistrait à Bamako. Et en fait, c'était Balaké qui avait tout organisé, sur les séances de studio. Et c'est lui qui les a produits à la base. Et ensuite, Laurent, ça lui a plu. Il a dit, j'ai envie de sortir sur No Format. Mais ça me plaît de travailler au Mali, en montrant que les choses se font là-bas, et que c'est pas un truc organisé par des maisons de disques ici, et que c'est vraiment la créativité en ce moment qui se passe dans les hautes sphères de la musique malienne, mais vraiment des gens qui cherchent. Balaké, c'est quelqu'un qui a joué avec beaucoup de musiciens dans le monde entier, et en fait, quand il t'invite à Bamako, il te montre dans quel état il aime être pour jouer. Et après, on a envie aussi de travailler avec... Il y a énormément dans ces musiciens, dans son groupe, des jeunes musiciens qui sont... des grands virtuoses méconnus ici, qui jouent le ngoni, d'autres qui jouent le bala, et qui sont vraiment très 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 forts. Et c'est vrai qu'on a envie de les enregistrer d'une certaine manière aussi, parce que souvent ils pensent qu'il faut faire un album de manière commerciale, alors que
faut revenir aux fondamentaux et faire...
Voilà, Balaké, il sait qu'ils peuvent faire des choses très très subtiles et qui auront une écoute. Maintenant, ils le savent, parce qu'ils pensaient que quand on avait fait cet album là ils se sont dit, ouais, mais là ça va être bizarre. Et en fait, les gens, quand on a joué au Mali, ça s'est super bien passé. Mais on leur a montré aussi qu'ici, les gens acceptaient aussi ce genre de choses. C'est-à-dire, deux instruments qui jouent acoustique, ça peut marcher aussi en Europe.
Et parlons peut-être également du Mali. Alors, de toute façon, je vais m'adresser à vous deux, Balaké ou encore à Vincent. Finalement, ça fait 20 ans que l'Occident tourne autour de l'Afrique en ce qui concerne la musique. Mais on assiste vraiment à une sorte de renouveau, de retour sur la scène pop, sur la scène des musiques du monde, certes, évidemment, de la musique africaine. Et on a la sensation qu'on redécouvre la richesse de la musique sur le continent africain. Et finalement, est-ce que le renouveau de la musique, le retour de la créativité ne peut pas passer que par le continent africain?
Oui. Bon, et en fait, l'idée, moi, l'idée, c'est pas vraiment... l'idée que j'ai, c'est le côté humain dans la musique. Donc là, c'est pas ni côté européen et puis ni africain. Donc quelque chose humain. Donc là, c'est ça...
En dehors de toute frontière.
Voilà. Donc parce que bon, on dit la musique, il n'y a pas de frontières. Donc pourquoi pas, on n'exploite pas côté humain aussi. Voilà. Oui, tu peux compléter, ouais.
Oui, Vincent.
Pas de soucis.
Vincent.
En fait, je suis d'accord avec toi déjà pour... on sent, et ça me fait plaisir d'une certaine manière. C'est vrai que déjà quand j'ai vu Damon Albarn, quand il a enregistré quand il est venu au Mali, et quand ensuite des groupes américains se sont réclamés vraiment de la musique... congolaise pour Animal Collective ou des choses comme ça, tu vois, ou Vampire Weekend,
ouais,
ou
Fool's Gold,
voilà. Et en fait, c'est des choses qui m'ont fait vraiment plaisir et que je savais déjà, parce que quand on est Cyril vit en Californie depuis longtemps, tu vois, et depuis qu'il est dans les années 80, il écoutait à fond plein d'afrobeat, plein de choses. Après, c'est vrai que nous, on a une autre manière de voir les choses, dans le sens que, par exemple, on a toujours un peu, pas une rancune, mais tu vois, quand tu vois les Inrock qui disent ouais, ça, ils s'extasient sur ça, alors qu'en fait, nous, quand on était avec Bomcello dans les années 80, début des années 90, on était dans des groupes avec Julien Leroux, tout ça, Olympique Gramophone, lui avec Groove Grand, Malik Melzadri, tout ça. On était déjà dans des trucs où nous-mêmes on faisait des séances avec des musiciens africains presque tous les soirs à Paris. Et c'est vrai que là, les Inrock, ils venaient pas nous voir en disant ouais, ils ont inventé ça ou ils ont fait ça. Il y avait énormément de groupes, c'est-à-dire, tu avais même des groupes dans les années 80 en Angleterre comme les Skidoo. Trinitri Skidoo qui sont sortis sur Soul Jazz Record. Maintenant, on sait que les gens vont rechercher les albums en les ressortant dans des compiles. Ou par exemple, le Mari Sushi Laraman, il faisait partie de ces groupes-là que j'admirais moi quand j'étais gosse, qui étaient déjà des groupes fusion, un peu comme ça. Je me souviens aussi de sessions Raga, Kwame Nkrumah avec Mad Professor, ou tout ça, où il y avait des musiciens maliens qui venaient. Nous, on enregistrait, il y avait Poupa Leslie, il y avait des mecs comme ça, et ça partait en. Des fois en soukousse, en plein milieu des séances, et c'était à Bobigny. J'ai jamais vu un journaliste des Inrock dans ces soirées.
Mais il y a toujours eu ça, même dans le jazz,
bien sûr.
Quand il retourne en Afrique.
Et Radio Nova, ils étaient à fond. Nous, on était sur Radio Nova à l'époque, quand j'avais 15-16 ans.
Ça leur fera plaisir d'être cité sur la Ferrari.
Non, mais on écoutait vraiment Nova. Pour moi, c'était. J'arrivais de Reims. Il n'y avait pas un disque de musique africaine dans les magasins de disques de vinyle à l'époque. Quand je suis arrivé à Paris et que j'ai rencontré mes voisins, il y avait Cheikh Tidi Hansek, tu vois, c'était vraiment mon voisin. J'ai connu la musique malienne par lui à la base. Mais Nova, on l'écoutait tous les soirs, la Sono Mondiale, c'était énorme. Donc c'est vrai qu'après, quand par exemple des mecs américains disent « Ouais, nous on collectionne ça et ça », l'avantage des États-Unis, c'est que au niveau universitaire, par exemple, tout le monde a suivi tout de suite. C'est-à-dire que tu pouvais aller en Californie, étudier la musique d'Inde du Nord, d'Inde du Sud, étudier la musique d'Afrique du Sud.
C'est très fédérateur.
Il y avait énormément de départements dans les universités, là où en France, à l'époque, il n'y avait rien. Moi, mes cours d'ethnomusicologie au conservatoire, c'était pas super intéressant. En musique indienne, peut-être, mais parce qu'il y avait Patrick Moutal, des gens comme ça qui étaient très forts. Mais en musique africaine, c'était assez limité. Après, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que par Internet et par... Peut-être il y a 2 personnes sur 100 dans les collégiens qui vont s'intéresser à autre chose qu'MTV et la musique de base de rock, et qui vont se dire moi je m'intéresse à la musique haïtienne, d'autres moi je m'intéresse à la musique colombienne, moi je m'intéresse à telle personne, parce que ce que dit Balaké, c'est-à-dire des hommes, c'est-à-dire tu peux aimer Tonzé et dire j'aime pas trop la musique entre guillemets brésilienne mais j'adore Tonzé, tu peux dire moi la musique africaine ça m'a jamais vraiment intéressé mais Franco Ok Jazz, c'est mon groupe phare. Ça, j'adore aussi les gens qui parlent en tant qu'individu. C'est-à-dire, tu peux te dire, j'adore par exemple quelqu'un comme dire la voix de Morricante des années 70, j'adore, mais c'est seulement Morricante. Ça m'intéresse aussi, ça soit pas spécialement une section.
Il y avait toute la musique éthiopienne aussi dans les années 70, un peu funk et tout ça qui a explosé.
Là, par exemple, si tu en parles, c'est Francis Falsetto. Ouais. C'est quelqu'un que j'ai connu dans les années 80. J'ai des albums de Mahmoud Ahmed que lui sortait sur Crammed. Oui. À l'époque, c'était distribué par Crammed, le label belge. Francis Falsetto, c'est lui qui m'a fait découvrir Mahmoud Ahmed, la musique éthiopienne. Si lui n'avait pas distribué ces disques-là, on en écoutait beaucoup plus en Californie, parce qu'à Oakland, à San Francisco, il y avait une grosse communauté éthiopienne. À Paris, c'est une communauté minuscule. Donc, c'est vrai que c'est grâce à ces types comme Francis Falsetto, et encore qui est passé sur Nova beaucoup, qu'on a pu écouter cette musique qui est extraordinaire, ça c'est vrai.
Pour en revenir à Balaké Sissoko et Vincent Segal, la suite, donc on parlait justement d'une suite avec beaucoup d'idées, est-ce qu'elle interviendra bientôt, toujours sur nos formats?
Je serai très fidèle à nos formats parce qu'ils ont fait un boulot extraordinaire, et on est vraiment, moi je suis tous leurs projets, il y a toujours quelque chose, j'ai connu les tout premiers, le projet par exemple de Loco Akanza avec Richard Bona et Gérald Toto, c'était au tout début, ou Gonzalez piano solo, tu vois.
Ouais.
Je suis très fier de faire partie de l'équipe de nos formats. Après, nous, on a plein d'idées. On en parle ensemble et on n'en parle pas trop à la radio.
Médiatiquement.
Parce que c'est des idées bien spéciales, donc on préfère les garder entre eux, mais t'es sûr qu'on y travaille en tout cas.
On attend ça avec impatience. Merci Balaké Sissoko, merci Vincent Segal pour les Radio Ferrarock.
Merci beaucoup.
Un vrai plaisir.
Merci.
Merci.
Retrouvez d'autres interviews sur ferrarock.org.